Seigneur bénisse. C'est une torture. Salut tous en précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne va pas se plaindre de la chaleur. On s'est déjà trop plaint du mauvais temps. Voilà, c'est tout ou rien. Père Céleste, nous te remercions ce soir encore pour ce rassemblement qui est prévu pour que cela se passe, que cela se passe autour de ta parole. Aussi, nous avons besoin de ta présence pour nous inspirer. Nous avons besoin de la bonne atmosphère du Saint-Esprit pour écouter, pour passer ces quelques moments ensemble, pour nous édifier. Aussi, nous sommes heureux d'être là, car il y a une bénédiction s'il y en a deux ou trois qui sont assemblés, et nous te remercions pour cette bénédiction. Tu n'as pas besoin d'un nombre public, deux ou trois te sont suffisants. Aussi, nous sommes reconnaissants pour cela. Et pour ceux qui peuvent pas venir pour cause de travail ou pour cause de maladie ou quelque empêchement quelconque, nous te les remettons aussi entre tes mains, que tu ne les oublies pas, ô Dieu, pendant que tu es avec nous et tous ceux par avec lesquels nous nous assemblons les autres jours, que tu les bénisses richement. Nous te demandons pardon pour nos péchés qui sont nombreux et nous sollicitons tes faveurs encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien. Nous lirons ce soir dans le livre des Nombres. Chapitre 13. Versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Nous intitulerons le sujet Envoie explorer le pays de Canaan. C'est Dieu qui appelle le fils d'Abraham d'aller explorer le pays. Et aller explorer dans un but bien précis. Il leur demande, verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Alors, ce que vous avez à faire, vous verrez le pays, ce qu'il est, ça, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas, s'il n'y en a point. Et il leur dit, ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Dieu demande aussi du courage à son peuple pour voir, pour explorer le pays et pour voir s'il correspond à leur attente. Et il demande cela au fils d'Abraham de le faire, parce qu'il avait juré à Abraham, leur père, qu'il donnerait à sa postérité, donc à la postérité d'Abraham, ce pays. Dans Deutéronome 34, l'Éternel, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Maintenant, quand Dieu vous donne un pays, il ne veut pas vous donner, comme on dit, un chat dans un sac. Dieu veut que vous voyez ce à quoi vous devez vous attendre. Lorsqu'il vous appelle à lui, lorsqu'il vous appelle à son admirable lumière, Dieu veut que vous sachiez qu'est-ce qui est à votre disposition, ce qui ne l'est pas, afin que vous ne viviez pas en dessous de vos privilèges. Quand Dieu donne, il donne. Dites amen à ça. Et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ce qu'il vous a donné. Maintenant, qu'il y ait des peuples forts ou des peuples faibles, ça ne change pas la promesse divine. La promesse que Dieu vous fait, qu'il y ait des facilités ou des difficultés, qu'il y ait des joies ou des peines, qu'il y ait des montagnes ou des vallées, ça ne change pas, n'est-ce pas, la position divine. Dieu vous le donne. Dans Josué, chapitre 1er, il dit, « Je vous le donne, ce pays. » Josué, chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne. » T'amène à ça. C'est un don de Dieu que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est à vous dans ce pays, comme je vous l'ai dit à Moïse. Amen. Et dans l'Église aujourd'hui, Dieu fait aussi des dons. Et ces dons, ils sont à vous. Ils ne sont à personne d'autre. Amen. Dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. C'est un agent. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné la grâce à chacun de nous. Il n'y a pas d'exception de personne. La grâce, c'est pour chacun de nous, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ces dons sont à vous. Les dons sont à l'Église. L'Église ne doit pas les négliger. Elle est appelée à les prendre. Elle est appelée à placer la plante de ses pieds. L'Église est appelée à être courageuse. C'est que les dons de Dieu, lorsque Dieu les fait, il ne faut pas seulement se contenter de rester dans son hamac de plaisance, de tendre la main et que ça vous tombe dans la main. Il faut aller les chercher. Il t'amène à ça. Il y a plein de dons. Si vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit, eh ben, il faut, Jésus dit, il faut le demander. Il t'amène à ça. Et le demander, il ne s'agit pas d'aller dans son lit, hein, entre deux sommeils, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il faut vraiment le lui demander. Luc, chapitre 18. Chapitre 11, pardon. Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Maintenant, au moment de le demander, Dieu dit, au moment de prendre le pays promis, Dieu dit, prenez courage, faut être courageux. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui sont faiblards, c'est pas pour eux. Dieu veut des vaillants hommes. Les hommes de la foi, tels que cela nous est donné dans Hébreux 11, eh ben, ces héros de la foi, n'est-ce pas? Il nous est dit que le monde n'en était pas digne. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont vaincu la puissance de feu. Ils ont fait toutes ces choses et Dieu parle d'eux. Pourtant, la victoire, Dieu l'avait donnée à David, mais David devait affronter Goliath, n'est-ce pas? David avait des ennemis, avait de nombreux ennemis qu'il devait combattre. Et David en est sorti vainqueur. La foi, Dieu donne la foi. Il la donne à ceux qui, n'est-ce pas, qui entendent l'évangile. Hein, ne fuyez pas vos assemblées. Hein, s'il n'y a personne qui prêche, comment les gens croiraient-ils, n'est-ce pas? Romains chapitre 10. Vous voulez avoir la foi? Il faut savoir se faire violence.
Amen.
Amen. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et je vous dis que croire au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une chose facile non plus, parce qu'il avait l'air, n'est-ce pas, d'une faible plante. Il avait l'apparence d'une faible plante, il est méprisé par les hommes. Et ainsi de suite, maintenant, on vous demande de croire en cet homme qui semble si faiblard, de croire que le Dieu Tout-Puissant est en lui. Ça a été une énorme pierre d'achoppement auprès des enfants, auprès des conducteurs d'Israël. Ça reste encore une énorme pierre d'achoppement aujourd'hui dans le christianisme. Mais personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit. Il faut avoir cela. et non pas réciter cela comme une récitation. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, nous, ici, on s'assemble 3 fois semaine. Ça va? On s'assemble 3 fois par semaine pour pouvoir ainsi venir nourrir nos âmes de la parole que Dieu inspire pour que cela nous soit apporté. Mais nous devons savoir que dans l'Ancien Testament, ils avaient l'offrande du matin, ils avaient l'offrande du midi, ils avaient l'offrande du soir, tous les jours. Dites amen à ça. Tous les jours, ce qui n'était pas facile. Dans Actes chapitre 2, en ce qui concerne l'église naissante, l'église du Nouveau Testament, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, nous avons vu cela dans l'enseignement des apôtres. Nous avons besoin de persévérance, nous l'avons lu, nous avons vu. Dans la communion fraternelle, ils persévéraient. Bah, ce n'est pas facile. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pour cela, ils avaient besoin que la Pentecôte ait lieu. Avant qu'il y ait la Pentecôte, quand Jésus-Christ les prenait sur le côté, dans le jardin des Oliviers, n'est-ce pas, pour prier, n'est-ce pas, à peine une heure, avant même qu'une heure ne passe, à peine ils s'écartaient que eux s'endormaient déjà. Mais quand la Pentecôte est venue, c'était des gens persévérants dans la prière. C'était des hommes d'une autre nature. Nous avons besoin de cette Pentecôte se réalise dans l'assemblée. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins. Dites amen à ça. De chacun. Ils étaient chaque jour. Nous, on en a 3. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Dites amen à ça. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les enfants d'Abraham d'aujourd'hui doivent, comme Abraham, avoir la foi en Dieu, la foi aux promesses faites par Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Et si on passe au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La foi, nous en avons besoin. La foi, c'est le big boss. La foi n'a peur de rien. La foi n'a pas peur des maladies opiniâtres. La foi n'a pas peur des grands problèmes. La foi n'a pas peur de Pharaon qui le poursuit. La foi n'a pas peur de la mort. La foi n'a peur de rien. Il commande. Elle commande. C'est le big boss, comme dit le frère. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Lorsque Dieu vous dit que vous posséderez la porte de vos ennemis, lorsque Dieu vous dit que vous posséderez le pays, si Dieu vous promet la Belgique, vous allez venir. Si vous regardez par la vue la Belgique, vous allez voir tous les problèmes que vous vivez aujourd'hui en Belgique. Vous vivez des problèmes de facture. Vous vivez des problèmes de toutes sortes. Vous vivez tout un tas de choses qui peuvent vous décourager et vous faire rentrer en Afrique, si vous voulez rentrer en Afrique. Ou alors, si vous allez en Afrique, vous regardez l'Afrique telle qu'elle est, vous allez vouloir revenir ici. Nous ne regardons pas les choses par la vue, nous regardons par la foi. La foi voit que les problèmes de la Belgique, vous pouvez les surmonter. La foi voit que les problèmes qui seront posés devant vous, il y a une solution à cela. Vous n'êtes pas abandonné. Il y a toujours quelqu'un auprès de vous prêt à vous aider. Le croyez-vous?
Amen.
Nous venons de le chanter. Il est Jéhovah Shammah. Il est toujours présent dans nos épreuves. Dieu n'est jamais absent. Les épreuves, on en aura. Des coups durs, on en aura. Mais il est toujours présent. Un dimanche, je parlais avec le frère là-bas derrière. Je parlais de quelqu'un. Je dis, tu sais, Dieu lui a demandé d'être patient. Mais, vous savez, quand Dieu vous demande d'être patient, c'est terrible. Cette patience que Dieu vous demande, c'est une véritable patience. Ce n'est pas une question d'un mois, ce n'est pas une question de deux mois, ça peut être une question d'années. Demandez à Zacharie, demandez à Abraham, demandez à tous ces gens-là qui avaient la foi. Il devait avoir la patience. La patience aux promesses divines.
Amen.
Et la patience, elle vient comment? Par l'épreuve de la foi. Sans l'épreuve de la foi, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être patient. Alors, si Dieu veut que vous soyez patient, Dieu va éprouver votre foi. Maintenant, vous allez avoir l'épreuve de votre foi. C'est la chose que vous... Comment Hébreux dit ça encore? La chose que vous... La chose que vous espérez, n'est-ce pas? Voir cela, avoir la patience de recevoir cette chose que vous recevez, que vous espérez, eh bien, Dieu va éprouver votre foi. Et si vous échouez à ce test, ça veut dire que vous allez perdre la foi. Vous n'allez plus vouloir écouter la parole. Vous n'allez plus vouloir suivre Dieu. Tout simplement parce que la patience n'y est plus. Que Dieu n'a pas exaucé vos prières, que Dieu n'entend pas vos prières. Vous savez, Zacharie pouvait le dire. Zacharie pouvait dire, oh, Dieu n'a pas entendu mes prières. Mais non, l'ange lui dit... Toutes tes prières ont été entendues.
Amen.
Si les prières de Zacharie ont été entendues, oui. Si vous avez eu la même sincérité au moment où vous avez prié, oui. Dieu a entendu vos prières.
Amen.
Quel que soit le résultat des choses que vous demandiez, sachez une chose, Dieu a entendu vos prières.
Amen.
Ne vous découragez pas. Dieu dit, prenez courage. Aujourd'hui, Dieu envoie les enfants d'Abraham pour explorer ce qu'ils ont. Est-ce que vous savez ce que vous savez ici dans l'Assemblée? Est-ce que vous savez ce que vous avez en Christ? Savez-vous ce que vous avez en Christ? Qu'est-ce qui est à vous? Pour pouvoir explorer, vous allez explorer comment? Pas en visitant les assemblées, non, c'est pas ça. Vous allez explorer ce que vous avez dans la parole de Dieu. C'est là que se trouvent ces promesses. Et le Saint-Esprit est promis pour pouvoir vous conduire dans toute la vérité, pour pouvoir vous conduire dans tout ce qui vous est promis. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Et les enfants d'Abraham qui ont la foi en cette parole sont priés d'aller d'explorer le pays, voir si ce dont ils ont besoin se trouve là-dedans. Maintenant, si l'Esprit vous conduit, vous verrez que d'abord, là, que Dieu vous a laissé, vous savez que vous avez un pouvoir. Vous avez un grand pouvoir. Vous savez ça?
Amen.
Pour quel pouvoir? Pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dans, si le Saint-Esprit vous conduit dans Luc chapitre 10, vous lisez ceci. Au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Qui a peur des démons en Christ ?» Les démons sont soumis aux enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai pas, je vous donne, je vous ai donné. » Si vous avez la foi en cela, c'est que vous savez que vous l'avez. Parce que Christ dit qu'il vous l'a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Si vous explorez la parole de vérité, d'abord dans Jean 16, il y a cette promesse, n'est-ce pas, connaissons, de l'esprit de vérité que nous devons recevoir. Il nous conduira dans toute la vérité. Verset 13, Jean 16. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et quand il vous l'annonce, sachez que c'est à vous. C'est à vous. Nous avons un bon pays que Dieu nous donne. Mais pour pouvoir posséder le pays, il faut du courage. Il ne faut pas être faiblard. Il ne faut pas être faiblard devant les coups que nous recevons. Parce que les coups, nous allons en recevoir. Nous le lirons. Les coups, nous allons en recevoir. Paul le dit. Les coups, on va les recevoir. Ça ne nous ratera pas. Mais soyez courageux.
Amen.
Soyez pas pleurnichard. Moi, j'aime bien Jacob. Il s'est battu. Avec l'ange toute la nuit. Quand il a reçu un coup qui lui a fait déboîter la hanche, Jacob n'a pas baissé les bras. Jacob l'a maintenu dans ses mains. Il a dit, je ne te lâcherai pas. L'ange lui dit, laisse-moi. C'est le matin maintenant, laisse-moi. On a assez combattu. Il dit, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Demandez, c'est à vous. Oh, explorez seulement ce pays que Dieu vous donne. Vous allez voir, il y a des promesses de guérison dans ce pays. Dites amen à ça. Dites-le aux malades que le pays de la bonne santé est bien réel. Dites-le, dites à ceux qui sont liés à ceux qui sont captifs, il y a des promesses de délivrance. Dites à ceux qui sont perdus, il y a des promesses de salut. Amen. Jésus dit dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez-la. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ne forcez pas, prêchez seulement. Vous ne saurez jamais donner la foi à quelqu'un en le forçant. Ceux qui sont destinés à croire, ils ont ce capteur-là en eux pour pouvoir croire. Ceux qui ne l'ont pas, ils ne croiront pas. Pour eux, ce seront des fables. Mais pour vous, c'est la parole de vérité. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des miracles dans ce pays-là. Il y a des choses qui se passent dans ce pays-là. C'est un pays merveilleux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Eh oui, les disciples, lorsqu'ils sont revenus avant même la Pentecôte, avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, ils ont dit, les démons nous sont soumis. Et Jésus a dit, j'ai vu Satan précipiter du ciel, comme un éclair. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Les serpents. S'ils vous mordent, Dieu a la solution. Lorsque les serpents brûlants étaient lâchés, Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque le regardait avait la vie sauve. Quand Dieu parle de vie, il parle de la vie éternelle. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le pays que Dieu vous donne. Maintenant, quand vous avez exploré ce pays, que dites-vous de ce pays? Ces frères qui sont partis de l'autre côté, ils ont expérimenté cela. Tout comme nombreux d'entre nous ont expérimenté cela. Ils ont expérimenté des miracles. Ils ont prié pour des bien-aimés. Ils ont prié pour des proches. Les proches, Dieu a entendu leurs prières. Dieu a exaucé. Ils ont vu des guérisons divines. Ils ont vu des délivrances. Comment des blasphémateurs autrefois sont devenus de véritables chrétiens. Ils ont vu cela. Mais, malgré tout, avant même qu'ils ne possèdent l'entièreté de ce que Dieu leur avait donné, parce que quand Dieu vous donne quelque chose, ne prenez pas à moitié. Prenez tout. Tout est à vous. Ne prenez pas plus. Mais ne prenez pas moi non plus. Quand ils sont partis, ils sont revenus, ils n'ont pas discuté. Ils sont revenus, verset 27, chapitre 13 des Nombres. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous l'avons exploré. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu l'a dit depuis le commencement. Que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Vous savez, quand ils sont revenus de la vallée d'Eshcol, ils ont porté une grappe qu'ils devaient porter à deux, une grappe de raisin. Tellement elle était abondante.
tellement elle était grosse. Verset 23 du chapitre 13, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. La guérison divine, c'est un fait. Aucun de nous ici ne conteste ça, malgré les coups que nous avons reçus. Eux, malgré ce qu'ils vont voir, ils ne vont pas contester ça, que c'est réellement un bon pays que Dieu leur donne. Alors, ils arrivent au verset 28, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. » Dieu a dit, « Voyez s'il est puissant. » Maintenant, quand vous reconnaissez qu'il est puissant, reconnaissez que Dieu ne vous donne pas n'importe quoi. Il vous a donné un pouvoir de marcher sur les puissants, de marcher sur l'ennemi et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, il est puissant, vous avez le pouvoir de le faire. Les villes sont fortifiées, vous avez le pouvoir de passer outre les fortifications. Il n'y a rien qui peut vous empêcher. Même pas des frères, même pas des sœurs, même pas la foule. Souvenez-vous, nous en avons parlé. Nous avons parlé de Bartimée, où la foule essayait de le faire taire. Non, la promesse était pour lui. Arriver auprès du Seigneur, surtout pour un aveugle dans cette foule, c'était comme si le Seigneur était fortifié. Il y avait une foule, il y avait une fortification devant lui. Pour un aveugle, ça ne devait pas être facile. Mais Jésus l'a appelé. Il a enlevé son manteau. Il est allé vers Jésus-Christ. Bartimée, es-tu sûr que tu vas y arriver? J'y arriverai. Il n'a demandé l'aide de personne. Parce que Christ l'a appelé, Christ lui-même le mènera à lui. Christ lui-même vous aidera à prendre ce pays. Les villes sont fortifiées, très grandes. Justement, soyez heureux que Dieu vous donne une ville aussi grande. Des villes aussi grandes, pas de petits monceaux de terrain. Mais il vous donne des grandes villes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Donc on ne sait pas prendre ni la contrée du Midi, ni la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. Donc même pas la vallée, près de la mer. Amen. Et le long du Jourdain. Oui. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs, car la victoire est à nous. Jésus a dit, ne craignez pas le monde. Contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Gloire à Dieu. Dieu vous donne un pays de gens qui sont plus forts que vous. Cela montre bien que c'est Dieu. Si vous étiez plus fort qu'eux, vous alliez dire, nous étions plus forts. Ici, c'est votre Dieu qui est fort. C'est votre Dieu qui vous fait entrer. Il faut que la gloire de Dieu puisse en ressortir. Amen. Gloire à Dieu. C'est sûr qu'il y a des obstacles. C'est sûr que dans ce pays, il y a des géants. C'est sûr qu'il y a des villes fortifiées. C'est sûr qu'il y a des maladies opiniâtres. Des cancers, des diabètes, des AVC, la mort, tout ce que vous... C'est sûr que toutes ces choses y sont. Mais notre Dieu est Jéhovah Rapha.
Amen.
Qui nous guérit de toutes nos maladies. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a ces choses que nous devons avoir peur. Nous n'avons pas peur. Soyons courageux. Même devant la mort, soyons courageux. Paul dit ceci. Actes chapitre 20. On ne peut pas craindre cela. Il y a une résurrection. Soyez pas affligés comme ceux qui sont sans espérance. Nous avons cette espérance. Actes chapitre 20. Verset 22. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit, le même esprit qui vous aide aujourd'hui à explorer le pays.
Amen.
Le même esprit qui vous conduit dans toute la vérité, qui vous montre ce qui est à vous, ce que Dieu vous donne et ce que Dieu vous dit de ne pas prendre. Le même esprit. Et ici, il est lié par cet esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il y a des tribulations. Jésus nous a prévenus. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. On n'en est pas exempté. Mais prenez courage. Prenez courage. Il dit, des liens et des tribulations m'attendent. Paul était courageux. Il n'a pas renoncé à y aller. Il a dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, sans me plaindre. Dites amen à ça. Avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Qu'importe, ce n'est pas grave. Mais il y a un endroit où nous nous verrons à nouveau.
Alléluia.
Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu.
Oui.
Le pays est à vous.
Oui.
N'ayons pas peur.
Amen.
Au milieu de ces géants, au milieu de ces villes fortifiées, nous devons donc, avec l'aide de l'Esprit, explorer le pays. Nous aurons à subir beaucoup de choses. Nous devons, avec l'aide de l'Esprit, connaître ce que nous possédons. Parce que si vous ne connaissez pas, je l'ai dit, vous allez vivre en dessous de vos privilèges. Nous avons des privilèges de chrétiens.
Amen.
Vous savez que la Bible nous dit, nous possédons toutes choses.
Oui.
Et pourtant, si on regarde avec les yeux charnels ici, ce n'est pas le cas. Il faut que nous regardions avec les yeux de l'Esprit.
Oui.
Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 4. On peut commencer au verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous avons vu, la grâce nous est donnée.
Amen.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. C'est maintenant le moment de lui demander. C'est maintenant. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui, il sauve encore. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Ce n'est pas facile, mais ayez courage. Dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, quand on vous dit que des coups, on va les recevoir. Dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, ne vous découragez pas. Veillez. Dans les jeûnes, jeûnez par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint. Que ferions-nous sans l'Esprit Saint ? Par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Ne nous promenons jamais désarmés. Ces armes, nous les avons. Elles ne sont pas lourdes à porter. Les armes du monde sont lourdes à porter. Quand Saül a essayé de donner à David ses armes, David n'a pas pu. Il lui a dit, c'est trop lourd pour moi. Ce n'était qu'un gamin.
Oui.
Dites amen à ça.
Amen.
Mais j'ai d'autres armes.
Oui.
Amen. au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Là, vous avez besoin des armes défensives, vous défendre contre la mauvaise réputation. La chose qu'on a dite contre vous, savoir passer outre cela, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique. Vous êtes regardé comme inconnu, quoique bien connu de votre Père céleste. Il vous appelle par votre nom, comme mourant, et voici nous vivons. Nous sommes regardés comme châtiés, comme si Dieu nous punissait d'avoir la foi. Eh bien non, quoique non mis à mort, nous sommes vivants. C'est le vivant qui le loue. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous savez, souvent, ce qui est difficile, c'est le combat qu'il y a entre la chair et l'esprit. Si vous marchez selon la chair, tout ce que vous allez voir devant vous, ce sont les problèmes. Les problèmes que vous pose le monde. C'est pourquoi l'apôtre nous donne ce conseil. Je dis donc, marchez vers chapitre 5 de Galates. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que ce que vous allez vouloir faire pour vous, ce sera pour satisfaire la chair. Quand Jacques dit vous demandez mal, il dit vous demandez pour satisfaire la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous savez, quand il y a ce combat-là entre la chair et l'esprit, il faut demander à Dieu de vous débarrasser de ce point charnel-là, de ce côté-là qui vous fait toujours regarder le côté de la chair. Abraham, on lui a aussi demandé d'explorer le ciel, de regarder le ciel pour évaluer sa postérité, pour voir ce qu'il possédait comme postérité. Genèse chapitre 13. Quand on lui a dit, va dans un pays que je te montrerai, n'est-ce pas? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham est parti, ne sachant pas très bien ce qu'il allait posséder comme postérité. Alors, tout au long du chemin, il va y avoir un combat entre la chair et l'esprit, entre Lot, son neveu, et Abraham. Lot, c'est le croyant charnel, il est un peu de la famille d'Abraham. Comme ce riche qui est mort en même temps que le pauvre Lazare. Il appelle Abraham, mon père Abraham, mon père Abraham. Abraham lui dit, Abraham le connaissait, a dit, tu as eu tes biens sur la terre. Mais ses yeux étaient tout le temps fixés sur le charnel. C'est le problème de Lot, c'est le problème que Lot avait avec Abraham. Alors, Dieu sait comment séparer les gens. Dans Genèse chapitre 13, Abraham remonta d'Égypte vers le Midi. Ils étaient tous bénis. Dieu les avait tous bénis en Égypte là-bas. Abraham est revenu riche. Bien sûr, il y a eu la problématique de Sarah, mais il est parti de là riche. Et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, dit Amen à ça, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Et pourtant, c'était son neveu. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. La Bible nous dit, ne vous querellez pas. Dans ces pays-là, on y vit en paix. Il y a l'amour, la paix, la joie. Il y a tout ça. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères.
Amen.
Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, il lève les yeux. Quand il lève les yeux, c'est bizarre, moi je n'ai jamais compris ce phénomène. Il lève les yeux, mais il voit la plaine. Comprenez ça? Il lève les yeux, il devrait voir en haut, n'est-ce pas? Il devrait voir la montagne, n'est-ce pas? Ou il devrait voir le ciel. Eh bien non, il voit la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, tellement c'était beau, tellement ça produisait. Alors Lot dit, il ne pense même pas qu'en fait, il est là grâce à son oncle. Eh bien, lui choisit le côté le plus riche, charnellement, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il dit, tout ça, je prends tout ça. Il ne laisse rien à Abraham. Mais il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, une fois séparés, Abraham et Lot, maintenant, Abraham dit, Dieu dit à Abraham, toi maintenant, lève les yeux.
Amen.
Quand Abraham lève les yeux, il ne voit pas une plaine. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Quand Dieu nous donne un pays, Dieu veut que nous foulions le pays de la plante de nos pieds. Dites amen à ça.
Amen.
Alors, quand ils vous baptisent du Saint-Esprit, vous étiez habitué à marcher droit entre deux sentiers. Non, Dieu vous a donné toute la salle.
Amen.
C'est à vous. L'impact du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre sur vous pour vous montrer que toute la salle est à vous. Vous n'allez même pas faire attention aux sièges qui sont là. Vous irez tantôt en titubant en gauche, tantôt en titubant en droite. Vous êtes ivre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fait posséder toute la salle, montrant que toute la salle est à vous. Pourrez-vous en prendre soin? Dieu prendra soin. Dieu m'aidera à prendre soin. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à prendre possession de ce que Dieu nous a promis. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à prendre possession des promesses qui sont inscrites dans cette Bible. Il y a de ces maladies, il faut se battre pour arriver à bout de cela. Il y a de ces maladies, il faut parfois accepter que la maladie, que ça finisse mal pour nous sur cette terre. Il y a de ces maladies, Il faut jeûner et jeûner et jeûner. Vous savez, il y a un ange qui, Dieu avait confié une mission. Il devait aller parler à Daniel. L'ange a eu des problèmes en chemin. Satan a essayé de le perturber, je crois, 3 semaines. Hein? Pendant 3 semaines. Mais l'ange ne s'est pas démonté. Il avait une mission, il devait l'accomplir. Et Dieu attend cela de vous. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre la vie entière. Ce n'est pas grave. Mais vous arriverez au bout. Vous serez content dans votre vieil âge que Gabriel vous dise que tes nombreuses prières ont été exaucées. Prions le Seigneur. Explorez seulement. Explorez ce que vous avez. Et n'ayez pas peur de demander ce qui vous appartient. C'est à vous. Saisis-la donc. Elle est à toi, la promesse divine. La promesse est à vous. Pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu en appellera. Prions le Seigneur. Merci encore, Seigneur. Tu veux que nous sachions que tu ne nous donnes pas un chat dans un sac. Tu veux que nous contrôlions le sac. De la même manière que tu nous as donné Jésus-Christ, tu nous as donné ton Fils unique. Tu as donné 4 jours à tous les conducteurs, à tout le monde, les païens, les croyants. Tu leur as donné 4 jours pour examiner s'il était sans tache ou s'il était, s'il n'y avait rien, il était irréprochable. Tu leur as donné 4 jours afin qu'ils puissent voir. Or, que les sacrifices qu'ils t'offraient étaient sans défaut. Père céleste, et ils l'ont attesté. Aujourd'hui également, nous reconnaissons que tu nous donnes de bonnes choses. Oh Père, que tu nous donnes un bon pays où coule le lait et le miel. C'est vrai, il est peut-être difficile à prendre, mais ta parole ne peut pas faillir. C'est toi qui nous rends capables d'en prendre possession. Aide-nous, Père, à fouler de la plante de nos pieds tout ce que tu nous as donné, que cela soit notre lot, que cela soit notre partage, que cela soit, ô Dieu, notre bénéfice aujourd'hui, puissions-nous le prendre selon les besoins que nous avons, selon les besoins de mon frère ici présent, selon les besoins de ma sœur ici présente. Ô Père, sois béni, sois loué. Conduis-nous, Père. Dans ce chemin, il est parfois difficile à entreprendre ce chemin. Il y a des cailloux qui blessent, c'est vrai, mais il y a la guérison près de toi, il y a le baume de Galate. Quand tu blesses, tu bandes le pied. Et toute notre confiance est en toi. Sois béni, mon Dieu, mon Créateur. Merci encore. Merci pour la soirée que tu nous as donnée. Parce que lorsque nous rentrerons, si nous étions découragés, que nous puissions avoir un courage nouveau, que nous puissions avoir, ô Dieu, ô Père, une espérance nouvelle. Conduis-nous sur le chemin, conduis mon frère, conduis ma sœur, au nom merveilleux, tout suffisant de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.